Le Grand Matin Sud Radio.
Merci d'écouter Sud Radio, il est 7h44. L'invité du petit déjeuner politique est ce matin le secrétaire général de Force Ouvrière, Pascal Pavageau.
Bonjour Pascal Pavageau.
Bonjour.
Vous fêtez vos un mois à la tête donc de Force Ouvrière. La mort de Serge Dassault, un grand patron s'il en est, symbole du capitalisme français hier. Est-ce que vous reconnaissez l'importance de, et la nécessité d'avoir de tels capitaines d'industrie pour créer de l'emploi en France ?
Vous savez, à Force Ouvrière, on a toujours défendu l'industrie. Moi, je me souviens que dès 2009, dans le cadre des États généraux de l'industrie, nous avons, par exemple, défendu la mise en place de filières industrielles. Aujourd'hui, il y a 14 filières industrielles et je crois pouvoir dire que les 14 filières industrielles qui existent aujourd'hui doivent beaucoup à la revendication de Force Ouvrière.
Oui, mais sur les grands patrons, alors, les capitaines d'industrie, vous estimez que c'est...
C'est important d'avoir des industries qui rayonnent à l'extérieur, que ce soit, bien évidemment, d'une manière générale, pour la compétitivité et ses propres entreprises, mais également pour l'ensemble des sous-traitants. L'industrie tire en général les services et pas le contraire. Donc il est essentiel effectivement d'avoir des grandes industries dans les grands sujets, y compris innovants. Par exemple, nous poussons pour avoir une filière de la déconstruction navale qui serait par exemple en France la première entreprise qui permettrait de déconstruire proprement les navires. Ça n'existe nulle part dans le monde et il nous semble que nous avons capacité, puisque nous savons construire des bateaux, nous savons les déconstruire proprement.
Alors on savait les construire, mais progressivement on abandonne, ça passe sous pavillon italien.
Mais c'est bien dommage. Là, en l'occurrence, le rôle de l'État, y compris dans l'impulsion pour l'industrie française et pour l'ensemble des milliers d'emplois que cela représente, est essentiel. C'est aussi un champ d'innovation et c'est aussi une logique de création d'emplois qui, encore une fois, dépasse largement la question purement industrielle.
Pascal Pavageau, pour poursuivre sur Serge Dassault, c'était l'homme qui trouvait anormal d'aider les chômeurs. Hein, il l'avait dit, il était connu pour son franc-parler. Le gouvernement s'apprête à toucher au cumul emploi-chômage. Vous allez vous y opposer ou pas ?
C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que là, vous prenez le nouveau projet de loi du gouvernement qui, en fait, dans sa philosophie, revient à une 7e ordonnance. On nous avait expliqué sur l'aspect formation professionnelle et notamment assurance chômage. On nous a expliqué en début de quinquennat qu'il allait y avoir des volets dits flexibilité, un peu pour les patrons, et à un moment donné, un volet sécurité. Et on nous disait que ce texte allait être le volet sécurité. Je suis désolé, mais en l'occurrence, tant sur la formation professionnelle que sur la question de l'assurance chômage, on reste dans la même philosophie de flexibilité. Donc pour l'instant, c'est une sorte de logique de 7e ordonnance.
Est-ce qu'il faut revoir, et est-ce que vous êtes d'accord pour discuter des aides sociales en France ? Ça a été le grand débat de la semaine dernière, avec la petite sortie de Bruno Le Maire.
On est toujours favorable à discuter pour faire en sorte que celles et ceux qui aujourd'hui sont sur le côté, ou en tous les cas ont besoin d'aide, ont besoin de la solidarité républicaine, eh bien soient mieux aidés. Là, en l'occurrence, ce qui était inadmissible dans les propos du ministre, c'était de nous dire, peut-être que s'il y a une ou deux créations d'emplois, par exemple dans la nouvelle économie, dans le numérique, qui ne bénéficieraient que à ceux qui sont à Bac plus 5, sans tenir compte des destructions d'emplois qui malheureusement sont en face, eh bien parce qu'il y a un ou deux emplois qui sont créés, on va en profiter pour supprimer les aides sociales qui, du coup, pour celles et ceux qui seraient deux fois victimes, premièrement, ne bénéficieraient pas de ces rares emplois créés et en plus, seraient sanctionnés sur leurs aides sociales. Donc ça, c'est inadmissible.
Oui, avant de parler de la fonction publique, un mot peut-être aussi sur le geste de Mamoudou Gassama. Il va être naturalisé. Les associations dénoncent une certaine récupération politique. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'Emmanuel Macron est peut-être allé un petit peu vite ?
D'abord, c'est un geste d'humanité, de solidarité, d'entraide exceptionnelle et on ne peut que se féliciter et applaudir cet acte de courage incroyable. Maintenant, il faut faire attention en termes de politique, effectivement, notamment sur les migrants. Il ne faut pas demander pour avoir une politique qui respecte les droits fondamentaux à ce que chacun des migrants sauve un enfant pour pouvoir être régularisé et pouvoir être accueilli en matière de droit d'asile dans notre pays. Je rappelle que nous sommes le pays des droits de l'homme et que, de ce point de vue-là, notre acte à nous héroïque, c'est justement de respecter les droits fondamentaux.
Oui. La fonction publique, la grande réforme est lancée. Hein. Ça commence par la rémunération des fonctionnaires. Est-ce que vous êtes favorable à l'idée qui a été émise par Olivier Dussopt, le secrétaire d'État, d'un salaire au mérite ?
Alors ça, c'est un vieux débat, un vieux serpent de mer ultra-libéral. Oui, bien sûr, sauf que maintenant, ça revient avec une logique beaucoup plus frontale, c'est-à-dire une logique de casse du statut. Il faut inscrire cette nouvelle réforme dans la même logique que celle sur la SNCF, c'est-à-dire on utilise une réforme, par exemple l'ouverture à la concurrence, on utilise les budgets d'austérité, sauf que cette fois-ci, on leur impose la casse du droit collectif. effectifs. Et en l'occurrence, ce que fait le gouvernement, au travers notamment de ces recrutements par contrat ou de cette individualisation de la rémunération, c'est de vouloir casser le cadre collectif de 5,4 millions de femmes et d'hommes, nos héros du quotidien, c'est-à-dire l'ensemble des agents de la fonction publique, et de leur casser le statut général. C'est la même chose pour les 127 000 personnes de la SNCF. On utilise l'ouverture à la concurrence pour leur casser le cadre collectif de leur statut. Oui. Et ça, c'est inadmissible, parce que c'est une logique d'individualisation. C'est une logique de chacun pour soi, c'est une logique de jungle où on renvoie tout le monde sur son auto-entrepreneur de soi-même
et sur son propre sort. Y compris chez les fonctionnaires, il y a ce débat en se disant, bah oui, mais moi je voudrais être un peu augmenté, je ne le suis pas.
Mais bien sûr, il suffit de régulariser que la valeur du point n'a pas été augmentée, grosso modo, et qu'il y a 16% de baisse
de pouvoir d'achat depuis 2000. Oui, mais vous savez qu'il y a ceux qui travaillent pas d'un côté, puis ceux qui travaillent de l'autre.
C'est totalement faux.
Il y a certains fonctionnaires qui le disent.
Il n'y a pas de raison pour 5,4 millions de personnes qu'il n'y ait pas les mêmes difficultés qui peuvent exister dans le public comme dans le privé. C'est exactement la même chose. Sauf que là, en l'occurrence, ils ont un cadre collectif. Et ils sont rémunérés collectivement sur la base d'un point, le point d'indice en l'occurrence. Donc de ce point de vue-là, on respecte les cadres collectifs. L'une des fiertés républicaines qui est la nôtre, c'est que 93% des travailleurs de ce pays, record du monde, soient couverts par une convention collective ou par un statut. Quand on est responsable et quand on veut être moderne, puisqu'il semble que le président de la République dise qu'il est moderne dans le nouveau monde, quand on est moderne et quand on est responsable de l'intérêt général, alors on se bat pour que les 93% deviennent 100%. On se bat pas pour que les 93% descendent à zéro.
Oui, mais s'il y en a qui font plus d'efforts que les autres, y compris dans la fonction publique, est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir un salaire au mérite ?
Non, dans ce cas-là, vous faites autre chose que la fonction publique.
C'est quoi,
vous vous engagez. Bah, vous ne vous engagez pas dans la fonction publique pour gagner de l'argent. Vous vous engagez pour servir les autres.
Ils ne vont pas travailler gratuitement.
Vous avez vu le niveau ? C'est absolument pas ce que je suis en train de vous dire. Oui. Je vous dis simplement que quand vous êtes fonctionnaire, les 5,4 millions de personnes, encore une fois, nos héros du quotidien, ces engagés du quotidien, ces engagés qui tous les jours nous aident, nous servent le bien de ceux qui n'ont rien, eh bien, ces femmes et ces hommes, ils s'engagent pour des valeurs, pour des principes. Ils ne s'engagent pas pour créer leur start-up et gagner de l'argent à Wall Street. Sinon, libre à eux de démissionner de la fonction publique, de créer leur entreprise et d'essayer de gagner des 100 et des 1000 par ailleurs.
Oui, Pascal Pavageau, le nouveau secrétaire général.
Il faut respecter les engagements, surtout quand ils sont nobles et républicains.
Oui, le nouveau secrétaire général de Force Ouvrière est l'invité de Sud Radio, question politique encore ce matin avec Michaël Darmon et tout d'abord Christophe Bordel.
Alors, quand on s'appelle Macron et qu'on est moderne, hein, comme vous l'avez dit, eh bien, on affaiblit les syndicats et on voit bien ce qui se passe au niveau de la SNCF aujourd'hui, très clairement, les syndicats sont affaiblis. Vous pouvez dire le contraire.
Ce qui est affaibli, c'est la négociation collective. Ce qui est affaibli, c'est le fait de reconnaître le rôle des organisations syndicales dans ce qu'on appelle la démocratie sociale, ou en tous les cas dans leur contribution à faire avancer
le progrès social. Vous êtes de moins en moins nombreux dans la rue.
Mais c'est pas le thermomètre et c'est pas le sujet. Ah bon, en l'occurrence, c'est pas comme ça qu'on mesure la réalité du progrès social. Aujourd'hui, le progrès social, c'est de permettre aux organisations syndicales et patronales de négocier. Et moi, dès que le président du MEDEF sera connu dans un mois, je demanderai au nom de Ouvrière, un agenda social pour que nous allions sur de la négociation interprofessionnelle entre interlocuteurs sociaux. On n'a pas à attendre que le président de la République nous impose un champ, mais il a réussi son coup. Vous savez, vous pouvez, comment dirais-je, ne pas tenir compte d'une personne tout le temps, vous pouvez ne pas tenir compte de tout le monde une fois, mais vous ne pouvez jamais ne pas tenir compte de tout le monde tout le temps. In fine, ça s'arrêtera. Ça ne peut pas continuer comme ça.
Il va se casser les dents.
Mais parce que vous avez 300 ans de République, vous avez 150 ans d'histoire sociale, et c'est pas en un an qu'on casse cet héritage-là.
Vous lui reprochez quoi à Macron aujourd'hui ?
Individualiser.
Un an après.
L'individualisation, le fait de casser l'intégralité de nos cadres collectifs qui font encore une fois notre fierté républicaine et qui font notre modèle social. Il y a un problème de méthode. Quelqu'un a dit très justement, on avait le candidat 2.0, on a le président 1. C'est tout. Je suis désolé, mais c'est exactement ça en matière de forme. Mais le problème, c'est que la forme sert en plus une vision qui est une logique d'individualisation. Et ça, c'est antinomique de notre modèle social et d'un République.
Il y a les autres.
C'est une logique de chacun pour soi. C'est quasiment une logique in fine de dire, quelque part si tu te plantes, si t'as pas eu de chance ou si t'as perdu ton emploi, c'est de ta faute. On transfère la responsabilité individu sur individu de son propre sort. On peut pas être tous auto-entrepreneurs de soi-même. Et on peut pas, quand on est président de la République, dire qu'il y a des gens qui réussissent, les start-upers, et des gens qui ne sont rien. Personne n'est rien, surtout dans notre République.
Michaël Darmon avec Pascal Pavageau.
Pourquoi vous n'expliquez pas à vos adhérents que dans 10 ans, il n'y a plus de chauffeurs taxi, il n'y a plus de chauffeurs routiers, que les voitures autonomes vont totalement changer le modèle industriel?
Mais parce que dans 10 ans, il y aura beaucoup de chauffeurs taxi.
Et que vous aurez.
Salariés.
Et que vous aurez, au fond, une nouvelle économie, que vous le vouliez ou non, qu'il faudra donc affronter.
Vous savez, les chauffeurs Uber, ceux dont vous parlez, les travailleurs de plateforme, ils se sont syndiqués. Ils sont syndiqués à Force Ouvrière, alors qu'ils ne sont pas salariés. Non, mais leur première revendication, c'est la reconnaissance de leurs droits.
Ce seront les voitures autonomes. Il n'y aura même plus de chauffeurs.
On a encore peut-être 5 minutes avant qu'il n'y ait absolument plus de chauffeurs.
Mais pourquoi vous ne préparez pas ce monde qui, de toute façon, arrive, que vous vouliez ou non.
Dès le rapport Mettling en 2015, les préconisations et les propositions que nous avons faites. Vous savez, le syndicalisme, il est très moderne. Le syndicalisme, il anticipe. Dans les branches professionnelles, c'est nous, les interlocuteurs sociaux, qui sommes en capacité de répondre aux questions que vous posez, c'est-à-dire les transformations d'emploi, les plus d'un côté, les moins de l'autre,
et
comment on va faire autrement demain, et les conséquences que cela aura sur les qualifications. Donc là-dessus, en termes de modernité, on a besoin de recevoir de personnes.
Et sans langue de bois, dans quel état sortent les syndicats de cette épreuve de SNCF ?
Les syndicats sur le secteur SNCF sortent, à mon avis, renforcés sur le fait qu'ils ont défendu le cadre collectif et qu'ils ont eu l'honnêteté de demander la négociation. La négociation, elle a été refusée, en l'occurrence, bien sûr, par une part du patronat de la filière, mais surtout par le gouvernement. De ce point de vue-là, au moins, on est droit dans nos bottes et dans nos revendications. Et on défend le cadre collectif.
La réforme de l'État qui se prépare, d'après les premières informations qui arrivent, sera très certainement très ambitieuse, va vouloir réduire le déficit, faire certainement toucher aux aides sociales. Vous serez en état de mobiliser si vous le souhaitez.
Nous voyons, les cinq secrétaires généraux ou présidents des confédérations, nous nous voyons plus largement entre les 8 organisations syndicales de ce pays plus les organisations de jeunesse. Moi, j'ai un mandat de la part de Force Ouvrière de chercher à aller sur une mobilisation, une réponse interprofessionnelle, mais purement syndicale et que sur le champ syndical, face à ce rouleau compresseur de destruction de nos droits sociaux.
Là aussi, ça marche pas. Pourquoi les gens ne sont pas dans la rue ?
Vous nous laissez 5 minutes discuter, vous savez. Vous appuyez pas sur un bouton. Déjà, en ce qui me concerne, j'ai le mandat que depuis un mois, exactement. Premièrement. Deuxièmement, vous appuyez pas sur un bouton qui s'appelle grève générale interprofessionnelle et tout le monde est dans la rue.
Ça se construit.
On en reparlera dans quelques mois, in fine.
Encore une question. Vous avez connu Emmanuel Macron lorsqu'il était donc secrétaire général adjoint. Vous étiez déjà en négociation, en discussion avec lui. En quoi vous surprend-il aujourd'hui qu'il est président ?
En un mot.
Écoutez, moi je pense que la logique de individualisation des droits, elle n'est pas nouvelle sur le fond. Ce qui est très étonnant, c'est sur la méthode, ça fait un peu, je pense, donc tu suis. Et donc le fait de ne pas travailler en concertation, notamment avec les organisations syndicales, est totalement nouvelle et extrêmement dangereuse, in fine, sur un plan démocratique.
Merci Pascal Pavageau, secrétaire général de Force Ouvrière, était l'invité de Sud Radio en grande forme et offensive ce matin.
Le Grand Matin Sud Radio.